Alors, nous allons, par cette lecture, entrer dans une dimension, une autre dimension, si je puis dire, nous plonger dans le passé et comme dans, quelque part aussi, à l'autre extrémité, dans l'éternité. Et pour apprécier le rôle central du souverain sacrificateur dans la rédemption que Dieu accomplit pour nous. Ce chapitre peut se révéler peut-être un peu incompréhensible, voire un tantinet anecdotique pour le lecteur non-juif, peu enclin à s'embarquer dans des considérations complexes et qui peuvent le dépasser, notamment aujourd'hui au XXIe siècle. Le premier destinataire juif de la lettre voyait cependant dans ce développement argumentaire la démonstration d'un changement de perspective. Du terrestre, on passait au céleste, du temporel à l'éternité. Du perfectible et la nécessité de recommencer sans cesse les sacrifices ont passé au sacrifice parfait et unique pour une rédemption définitive. En ce sens, Melchisédek est le modèle précurseur du sacrificateur d'une alliance parfaite et éternelle qui se révélera l'être que par comparaison finalement à la sacrificature aaronique et l'accomplissement parfait et définitif des exigences selon la loi. Lisons donc à présent Hébreux chapitre 6, verset 19, la fin du chapitre 6, et jusqu'au chapitre 7, verset 28. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Yeshua est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yeshua l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Yeshua est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Je m'arrête ici dans la lecture. Le texte qui nous occupe ce matin suscite bien des questions et les théologiens chrétiens peinent à se mettre d'accord sur la nature du texte, sa profondeur typologique et le caractère même du personnage central qui est ici Melchisédek. L'auteur de la lettre avait déjà évoqué ce personnage au chapitre 5, mais sans vraiment s'attarder. Une citation rapide au verset 6, comme il est dit encore par ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Mais le cœur du propos était Yeshua lui-même dans sa nature et ses fonctions doubles de sacrificateur et roi. Dans notre chapitre 7, l'auteur de la lettre aux Hébreux va citer et développer davantage le personnage de Melchisédek comme un modèle type auquel Yeshua se conforme dans ses fonctions. Mais ce qui rend l'exercice complexe, c'est que la frontière entre le type, si je puis dire, et l'antitype, c'est-à-dire en d'autres termes, entre le modèle et celui qui s'y conforme, est loin d'être aussi nette. Melchisédek est-il l'archétype d'une sacrificature à laquelle Yeshua se conforme? Ou bien Melchisédek, dans sa réalité historique, est-il plutôt une sorte d'allégorie d'une autre réalité, spirituelle et relative à la sacrificature plus excellente et plus permanente que celle selon l'ordre lévitique d'Aaron? Les théologiens se perdent ici en conjectures à ce propos, et il me semble cependant essentiel de garder à l'esprit l'intention la plus évidente donnée par l'auteur. Il affirme d'emblée ce en quoi il croit fermement et qui lui paraît essentiel comme un postulat. Et il reprend à son compte le caractère prophétique et messianique du psaume 110. Yeshua est souverain sacrificateur pour toujours. C'est ce qu'il dit en substance déjà au chapitre 6. Verset 20, là où Yeshua est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Yeshua est donc le garant d'une alliance nouvelle, plus excellente que la première. Verset 21, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yeshua l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Yeshua est pour cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est comme une évidence que le but final est de montrer que Yeshua est l'auteur et le garant d'une alliance plus excellente que celle de Moshe, de par sa permanence et surtout de sa portée au-delà de la mort. Ainsi, les destinataires de sa lettre n'ont rien à redouter de l'épreuve qui va même peut-être les atteindre déjà à ce moment-là. Le chapitre 7 a été perçu par certains commentateurs comme une parenthèse de nature hymnique, comme s'il s'agissait d'une doxologie préétablie, une formulation typique. Je pense pour ma part que notre auteur poursuit avec la même rigueur une rhétorique argumentaire parfaitement construite et nourrie de citations dont l'interprétation par les Juifs du 1er siècle était déjà bien connue. Ceci étant, les assertions problématiques pour les théologiens de notre époque ne semblent pas l'être pour notre auteur ou les destinataires de sa lettre. À la limite, on peut suggérer que pour l'auteur, l'objet de son propos est avant tout de conforter ses lecteurs dans l'idée que Yeshua, par l'évangile qui leur a été prêché, a bel et bien ouvert la voie, et ce au-delà du voile, pour que ses disciples, quels qu'ils soient, puissent entrer et demeurer dans le lieu saint, dans la présence même de Dieu. Alors, sans reprendre en détail toutes les hypothèses déjà développées lors de notre étude du chapitre 5, nous allons suivre l'argumentaire de l'auteur point par point. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Yeshua est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek. Alors, l'articulation ici entre les propos du chapitre 6 et la démonstration proposée au chapitre 7 tourne à l'évidence autour du rôle de Melchisédek. Cette démonstration est a priori essentielle pour l'auteur, et dans la mesure où elle fonde pour les destinataires de la lettre, comme d'ailleurs sans doute aussi pour l'auteur, l'espérance, l'ancre de l'âme sûre et solide dont il est question ici au verset 19. Yeshua est présenté comme le précurseur du chemin que nul autre sacrificateur n'a emprunté auparavant, enfin du moins selon l'ordre d'Aaron et les descendants de Lévi. Car ici on reste dans un comparatif à l'avantage de celui dont la permanence va être démontrée, et ce au détriment du sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, qui lui est perfectible sur bien des points. Mais poursuivons. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors à ce stade, l'auteur se doit de présenter Melchisédek. Et sans citer textuellement le passage de Genèse 14, il en reprend les grandes lignes, celles qui lui sont nécessaires pour son argumentaire. Conformément à la tradition rabbinique, dans le contexte singulier de ce passage, l'absence de certains détails se traduit pour l'auteur par une interprétation directe et même conclusive. Un roi dont on ne mentionne pas les ascendants ou descendants a nécessairement un caractère éternel. On peut même dire que l'auteur met sans doute en avant sa lecture interprétative du psaume 110, comme étant une clé de compréhension du texte de la Genèse dans son développement argumentaire. C'est là que le modèle typologique de Melchisédek et Yeshua lui-même tendent à se confondre. En effet, si le psaume 110 évoque avec une grande acuité le caractère éternel du Messie, à venir, en relation avec son rôle de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, doit-on en conclure que le récit de Genèse 14 propose un Melchisédek ayant les traits du Messie dans les mêmes termes? Je pense qu'il nous faut être prudent. Le récit de Genèse 14 propose un modèle typologique, interprété a posteriori par le psalmiste et plus tard par notre auteur de la lettre aux Hébreux. Cependant, la nature des textes est différente. L'auteur de notre lettre ne reprend pas tous les détails de cette rencontre entre Abraham et notre roi emblématique. Par exemple, il ne cite pas le pain et le vin apportés par le roi, qui, dans une perspective prophétique, a été interprété plus tard par les chrétiens comme une sorte d'anticipation de la scène. L'accent est mis sur plusieurs points importants pour l'auteur, ceux en comparaison avec l'ordre lévitique d'Aaron. D'ailleurs, l'évocation de l'auteur est ici essentiellement implicite. Premier point. Une double fonction du personnage type, il est à la fois sacrificateur et roi. Or, il était impossible de cumuler les deux fonctions selon la loi. Roi de Salem, détail qui n'est pour ainsi dire pas exploité par l'auteur, comme reliant le roi à la ville de Jérusalem, et ce point-là est d'ailleurs assez curieusement absent. Et puis, sacrificateur du Dieu Très-Haut, El Elyon, c'est-à-dire une expression finalement assez commune qui pousse certains commentateurs à voir dans Melchisédek un prêtre païen, relativement commun, qui avait la particularité de cumuler le titre de roi. Un deuxième point encore. Il bénit Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout. Comme le rappellera le verset 7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De retour victorieux de la bataille, Abraham aurait pu, pour le moins, prétendre à la qualité de roi, le mieux placé dans la région. Il n'en fait rien et va au contraire s'abaisser devant un autre roi qu'il considère cependant d'abord comme un sacrificateur de Dieu. L'auteur met l'accent avant tout sur deux prérogatives du sacrificateur, qui sont de bénir le peuple et aussi de collecter la dîme. On retrouve cela dans Nombre 6, 23, Lévitique 27, 30 et aussi Nombre 18, verset 21. Troisième point, roi de justice et roi de paix. Et l'auteur passe à présent à l'autre aspect du personnage de Melchisédek, mais en relevant uniquement la signification hautement symbolique de son nom. Donc il était déjà, dans un premier temps, sacrificateur, mais là il est roi de justice et roi de paix. Roi de justice et roi de paix vont en fait de pair avec la vocation messianique de Yeshua, apporter la justice et la paix. Salem est donc relié plutôt à sa vocation spirituelle, plutôt qu'à un lieu particulier. Et il faut aussi comprendre Salem, ou Shalom, dans son acception la plus large, dans la pensée juive. Une résonance spirituelle qui marque le personnage dans son être aussi bien que dans son action. La justice n'est pas seulement l'établissement d'une certaine justice venant de Dieu, mais aussi sans doute l'incarnation de la justice. Il est le juge aussi bien que le moyen par lequel la justice est établie. Justice et paix sont en quelque sorte au travers du nom, plus qu'une fonction externe, mais véritablement des valeurs incarnées. Le détail mentionné ensuite est une conséquence de la pensée rabbinique qui prévaut chez l'auteur. Le texte de la Genèse ne précise aucune généalogie, ni en ascendance, ni en descendance. Et l'auteur donc d'en conclure que le personnage ne possède ni commencement, ni fin. Ceci étant, le fait de le mentionner de cette manière dans sa rhétorique, et non dans Genèse chapitre 14, ne signifie pas que le personnage historique de Genèse 14 soit lui-même éternel. C'est là toute l'ambiguïté du modèle type et de son pendant messianique en la personne de Yeshua. Le texte de Genèse 14 est assez sommaire et ne s'embarrasse pas de beaucoup de détails. Ce qui laisse libre cours à pas mal d'hypothèses, plus ou moins sérieuses. On aurait pu en rester là et éluder la question faute de matière à travailler dans le texte. Mais un rapport typologique aussi fort entre Melchisédek et le Mashiach nous contraint à creuser un peu plus les choses et à fournir quelques hypothèses. Quelles sont-elles? La première, c'est que Melchisédek pourrait être un ange, aux apparences humaines cependant. L'option est assez minoritaire, mais celle-ci se heurte à plusieurs considérations. D'abord, même s'il est vrai qu'un ange n'a a priori aucune généalogie, le contexte de la lettre aux Hébreux, surtout au début de l'Épître, témoigne d'un effort constant de l'auteur à marquer la supériorité du Messie Yeshua au-dessus de tout, et notamment au-dessus des anges. On voit mal alors cette hypothèse collée avec l'expression singulière du verset 15 quand il est dit « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. » Je me permets ici d'ouvrir une petite parenthèse. Le verset 15 est ici, dans la version seconde, assez difficile à rendre. En effet, le grec a le verbe « aphomoio » qui peut se traduire par « rendu semblable » ou « assimilé ». En d'autres termes, il y a bien ressemblance ou similitude entre les deux parties, mais si l'on suit le raisonnement de l'auteur, c'est à cause de la singularité de celui qui apparaît en second qu'il y a ressemblance au premier. Ce qui ressort de la deuxième partie du verset 3, donc au sujet de Melchisédek, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est donc le second, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui semble être l'original, dont Melchisédek serait en quelque sorte le reflet type. Le texte de Genèse 14 n'est pas à proprement parler un récit prophétique, comme l'est par exemple le psaume 110. Il serait plutôt un midrash qui éclaire sur la nature du Messie, mais a posteriori. Il n'était possible d'établir cette similitude que parce que le Mashiach, Yeshua, est apparu. Et c'est par lui que peut se construire cette similitude à Melchisédek. Une autre considération relative à cette hypothèse est la difficulté à faire rejoindre la position d'un ange au milieu d'un contexte historique avéré. Car il semble difficile de comprendre le récit de la rencontre avec Abraham autrement que comme historique. En effet, donc Melchisédek et Yeshua lui-même, ça c'est une deuxième option, une deuxième hypothèse. Alors dans ce cas de figure, nous ne sommes plus dans une comparaison entre deux sacerdoces ou entre deux personnages qui se ressemblent. Il est sûr que l'égalité entre les deux individus facilite bien des choses, mais se heurte aussi à l'historicité du récit de Genèse 14. On s'écarte aussi de la démonstration typologique de l'auteur de la lettre. La comparaison paraît à beaucoup, d'ailleurs un peu trop forcée, et le trait du Christ trop appuyé dans un récit au demeurant loin d'être d'une telle évidence. Troisième hypothèse, Melchisédek est un être humain qui s'inscrit tout simplement dans le contexte immédiat et historique du patriarche. À ce propos, les avis sont multiples et posent des problèmes de crédibilité. Considérer Melchisédek comme un roitelet régional suffisamment connu des protagonistes du chapitre 14, mais pas assez pour jouer un rôle majeur dans la vie du patriarche pourtant voisin, cela semble assez difficile à croire, surtout s'il s'agit en plus d'un homme sacrificateur du Dieu unique. D'autres pensent qu'il s'agit d'un sacrificateur païen qui cumulerait aussi la fonction donc de roi. Et puis enfin, le manque de références généalogiques serait fortement problématique pour un roi local. Il manquerait de reconnaissance et serait vivement contesté. Quatrième hypothèse, Melchisédek serait la personne de Sem, l'un des fils de Noé. C'est l'option retenue généralement par la tradition juive et la tradition chrétienne la plus ancienne. On pourra toujours objecter que Sem a bel et bien une généalogie, mais le contexte du récit de Genèse 14 pourrait laisser entendre la futilité d'une telle mention dès lors que le personnage est unique en son genre. Il peut faire en effet l'unanimité parmi les protagonistes du récit, il est l'homme le plus âgé que la plupart des gens connaissent à cette époque, il a quand même entre 400 et 450 ans. On peut l'imaginer à la fois connu d'Abraham, qu'il a peut-être déjà rencontré en d'autres circonstances, et puis aussi des autres rois qui sont autour. Il peut aussi en effet être roi ou chef d'un clan relativement modeste. On peut aisément l'imaginer également sacrificateur de Dieu. Maintenant, il peut sembler étrange quand même qu'Abraham n'ait pas développé de rencontres plus régulières avec son ancêtre, surtout s'il habitait à une relative proximité. Le récit de Genèse 14 ne mentionne pas non plus Sem par son nom, sauf à supposer que Melchisédek est en fait son surnom, désignant alors ses fonctions et non son vrai nom. Cela laisse quand même pas mal de suppositions non écrites. Alors, quelle que soit l'option retenue, il y a quand même des difficultés qui demeurent. Et la similitude que l'auteur de la lettre aux Hébreux établit entre Melchisédek et Yeshua reste le postulat de départ qui établit la supériorité du second sacerdoce par rapport au premier, de la seconde alliance par rapport à la première. L'objectif visé par l'auteur reste très clair. Poursuivons avec l'argumentaire proposé par l'auteur. Verset 4, donc toujours chapitre 7, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » La remarque de l'auteur adressée à ses lecteurs fait remarquer l'importance de Melchisédek au regard du sacerdoce dont il est question. Mais au-delà du type, c'est l'antitype qu'il modélise, à savoir le Fils de Dieu, que l'auteur désigne comme réellement digne de grandeur. En effet, les Lévites et les sacrificateurs, qui selon l'autre sacerdoce recevaient la dîme, étaient d'une importance plus grande que le peuple qui était prélevé. D'où la note de bon sens qui désigne au verset 7, sans conteste, l'inférieur comme béni par le supérieur. Mais on va y revenir dans un instant. Poursuivons encore au verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans conteste, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc les deux sacerdoces se distinguent ici par le fait qu'Abraham, et avec lui les Lévites, qui sont encore en quelque sorte dans son rein, les reins d'Abraham, ont en quelque sorte payé la dîme à un plus grand qu'eux, Melchisédek, le type du souverain sacrificateur dont la mandature est éternelle. Cet ordre chronologique, en même temps que cette dîme prélevée, est offerte dans le cadre d'un sacerdoce perpétuel, rend l'ordre aaronique nécessairement inférieur à celui qui l'a précédé et qui le surpasse à plus d'un titre, comme va le développer l'auteur de notre lettre. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, ce sont c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. L'auteur n'hésite pas à faire des ponts et à les traverser. Il passe d'un personnage à l'autre, de Melchisédek et Yeshua, notamment au verset 8 avec Yeshua dans « Celui dont il est attesté qu'il est vivant », comme il est dit, de l'autre au verset 10 en revenant au personnage de Melchisédek. L'auteur de notre lettre poursuit donc avec une rhétorique toujours plus singulière. Verset 11. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ?» Alors ici, la rhétorique michnique, si je puis parler ainsi, appelle l'auteur à poser les questions et à en apporter aussi aussitôt les réponses. C'est donc ici qu'on trouve la manière de dialoguer dans la Mishnah, donc qui est une composante du Talmud. Le sacerdoce lévitique n'a rien amené à la perfection. Le « si » est en l'occurrence bien moins une hypothèse qu'une évidente constatation. L'auteur veut amener ses lecteurs à comprendre que l'une des différences notoires entre les deux sacerdoces réside en la perfection de l'un et la faillibilité de l'autre, et donc la supériorité de l'un sur l'autre. La loi, et ici il faut comprendre la Torah, donnée au peuple au verset 11, n'est pas faillible en elle-même. C'est le sacerdoce qui la soutient qui pose problème. Le sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, est faillible à cause du péché et de la mort. Notre auteur doit conclure qu'il faut un autre sacrificateur régi par un autre régime et dont la pérennité lui assure une supériorité incontestable. Il se distingue d'abord par une règle de nomination différente et confirmée par deux principes radicalement différents. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Et donc l'auteur inclut implicitement dans sa réponse le Seigneur Yeshua comme la solution divine. Or, Yeshua est issu de la tribu de Juda et non de Lévi. Voilà pourquoi il y a un changement de loi. Mais ce n'est pas tout. Poursuivons verset 15. Car cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'évidence dont il est question est la manière manifeste dont Yeshua est devenu sacrificateur. Il ne l'est pas devenu en vertu d'une ascendance particulière, comme les sacrificateurs issus d'Aaron, qui, limités par la mort, devaient être constamment renouvelés. Non, Yeshua est devenu sacrificateur en vertu d'une puissance, celle d'une vie impérissable, nous est-il rapporté, c'est-à-dire une vie éternelle. L'expression n'est pas sans rappeler peut-être même non seulement une réalité intrinsèque propre à Dieu et à son Fils Messie, c'est-à-dire l'éternité, mais la puissance de la résurrection qui est la démonstration finalement d'une rédemption parvenue à la perfection, supérieure à tout ce que pouvait accomplir un sacrificateur selon l'ordre charnel d'Aaron. L'auteur de confirmer ce fait par une déclaration solennelle de Dieu dans le psaume 110 qu'il relie indubitablement à Yeshua. Verset 4, donc psaume 110, verset 4, « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Revenons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 18, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » La déclaration divine du psaume 110 rend caduque l'ordonnance sacerdotale selon Aaron au profit d'une perfection parvenue par Yeshua, marquée par la victoire sur la mort, ce que sous-entend bien entendu l'expression « une vie impérissable ». La récurrence des sacrifices montrait les limites de ce sacerdoce. Quoique l'ombre des choses à venir, nous est-il dit par ailleurs, les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas rendre pur sur le plan de la conscience l'homme pécheur. Les sacrificateurs soumis eux-mêmes à la vanité du péché ne pouvaient être des intercesseurs capable de porter devant Dieu la charge des consciences souillées. C'est pourquoi Yeshua devait, quoique soumis à la loi, devenir un sacrificateur d'un autre ordre, capable de mener jusque dans le lieu saint le sacrifice parfait qui purifie l'homme de manière plus excellente. Un seul sacrifice parfait, un seul sacrificateur qui intercède pour nous et une seule rédemption une fois pour toutes. Voilà résumé l'excellence de ce nouveau sacerdoce. Cette espérance meilleure nous ouvre le chemin au travers du voile pour entrer dans la présence même de Dieu. Verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yeshua l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré, a juré, et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Yeshua est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alors à l'excellence et même la supériorité du sacerdoce par Melchisédek s'ajoute la force du serment de Dieu contenu dans la parole prophétique du psaume 110. Alors pour nous, au XXIe siècle, un serment ajouté à une parole donnée peut sembler presque anecdotique, mais dans la rhétorique rabbinique, c'est comme un double témoignage qui s'ajoute et renforce la promesse déjà donnée. La promesse, renforcée par le serment de Dieu, est la garantie donnée par Dieu d'une rédemption parfaite dans le cadre d'une alliance plus excellente, c'est-à-dire sans nul doute supérieure à celle qui a prévalu dans le sacerdoce aaronique. Yeshua est intervenu il y a 2000 ans pour accomplir notre rédemption selon les exigences de la loi, sous le régime du sacerdoce aaronique. Mais par sa résurrection, il instaure ce que le psalmiste avait annoncé, un sacerdoce nouveau, selon l'ordre de Melchisédek, une rédemption nouvelle et plus excellente que ce qui était jusque-là possible par les Lévites. Par là même, il annonçait la fin de l'ancien régime sacerdotal avec ses lois, et on peut voir à ce sujet le récit talmudique sur la fin de ce régime lévitique. Et on sait que les rabbins savaient que, d'une certaine manière, le régime d'Aaron devait prendre fin et avec la destruction du temple. Et c'est en effet ce qui est arrivé en 70 avec la destruction du temple par les Romains. Mais c'est aussi ce qu'il dit encore de manière plus explicite plus loin, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, se caractérise singulièrement par sa pérennité éternelle. Yeshua demeure éternellement, son éternité s'ajoutant à la perfection de son sacrifice et de son office comme sacrificateur, rend assurément son salut pour les hommes plus excellent que ce que pouvaient accomplir jusque-là les sacrificateurs fils d'Aaron. Quoiqu'aujourd'hui, au ciel, auprès du Père, le Fils intercède en faveur des siens, car il est vivant pour toujours. L'auteur va à présent conclure, et en mettant en exergue les différences notables entre les deux sacerdoces. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Yeshua est assurément ce sacrificateur dont nous avions besoin. Il se distingue des sacrificateurs descendants d'Aaron par bien des aspects et rend ainsi plus excellente la rédemption qui nous a acquise. Il est saint, il est innocent, il est sans tache. Il est séparé des pécheurs, il est plus élevé que les cieux, et il s'est offert lui-même en sacrifice et a apporté dans le lieu saint son propre sang. Il a été établi sacrificateur par la force du serment auquel Dieu n'a pas dérogé et qu'il ne dérogera pas. Yeshua est parvenu à la perfection pour l'éternité. Alors, nous arrivons au terme de notre chapitre et de la rhétorique de notre auteur qui n'hésite pas à placer Yeshua au cœur de cette alliance nouvelle, de ce sacerdoce plus excellent, donné selon un ordre antérieur à la promulgation de la loi, mais confirmé pour Yeshua en vertu d'un serment divin qu'il n'est pas possible de déroger. Les lecteurs destinataires de la lettre avaient là non seulement une démonstration magistrale de la puissance de Yeshua comme sacrificateur, intercesseur en leur faveur, mais la certitude, par le serment divin, de l'espérance qui était la leur au-delà de la mort, ayant un sacrificateur pour toujours présent à leur côté. Eh bien, puissions-nous nous laisser encourager par ces paroles pour persévérer dans la course qui est la nôtre, comme l'invitation qui a pu être faite au premier lecteur de cette lettre aux Hébreux.